notre deuxième étude qui survole le champ des théologies dites féministes. Avec Rossino Gibellini, dont le panorama de la théologie au XXe siècle est un petit chef-d'œuvre, bien qu'il ignore totalement tous les évangéliques. Avec Gibellini, donc, je pense qu'on peut souligner que les théologies féministes ne sont pas des théologies de la femme, au sens où on a dit théologie des réalités terrestres, théologie de la nature, théologie de. Il ne s'agit pas simplement de théologies qui prennent pour objet le statut, les caractéristiques, les rôles qu'on attribuera à la femme, mais davantage des théologies que les femmes elles-mêmes élaborent. Des théologies où la femme est sujet avant d'être objet, et qui s'inscrivent en accompagnement, avec l'espoir même de précéder ces développements ultérieurs, en accompagnement de ce mouvement assez général, très ample, dont nous avons parlé dans la première étude. J'ai ici une définition formelle de la théologie féministe par une théologienne norvégienne, évangélique. Ah, je ne sais pas ce que cette initiale cache comme prénom complet, Hauge. Et je vais vous lire sa définition. Je la tire donc de l'article de cette A. Hauge dans le numéro de Temelios consacré principalement, sinon tout à fait exclusivement, au débat concernant le féminisme que j'ai signalé en bibliographie. Mais c'est un numéro extrêmement précieux. Je vous signale donc que cette revue Temelios, si vous ne la connaissez pas, et si vous lisez l'anglais, est sans doute la revue qui vous donne le meilleur rapport qualité-prix sur le marché d'aujourd'hui. C'est la revue pour étudier en théologie, mais aussi pour professeur, je vous l'avoue, publiée par l'Union internationale des GBU. Et elle est de haut niveau scientifique. Les grandes pages avec un caractère aseptique sont vraiment bourrées d'informations. Vous avez des recensions de livres aussi très, très complètes et nombreuses. Vraiment, vous avez là l'actualité théologique qui vous atteint à un prix d'abonnement beaucoup plus bas que normal, qu'ordinairement les revues de théologie n'en réclament. Donc, si vous voulez faire de la théologie et avoir une revue qui vous vienne, je recommande tout spécialement celle-là. Même si je fais par là quelques torts à notre revue Fac Réflexion, concurrente en français, bon, vraiment, je pense que je retire moi-même beaucoup de la lecture de Temelios. C'est peut-être la seule revue de théologie que je lis vraiment entièrement de manière tout à fait régulière quand elle arrive. Donc, dans son article intitulé « La théologie féministe comme critique et renouvellement de la théologie », A. Hauge définit la théologie féministe comme réflexion sur le contenu et le sens de la religion, s'intéressant particulièrement au statut et la situation des femmes, reconnaît l'usage et l'abus de la religion dans le passé et dans le présent pour opprimer les femmes, et qui a pour but, donc la théologie féministe, de contribuer à leur libération. C'est une définition qui, je pense, indique bien qu'il s'agit d'un effort de théologie au sens habituel du terme, réflexion sur la croyance, sur le contenu de la religion, réflexion qui doit avoir un statut scientifique, mais qui adopte un point de vue particulier, qui s'intéresse à un aspect comme plus déterminant que tout autre, et qui a aussi une intention, qui veut œuvrer à la libération des femmes en général. La théologie féministe est extrêmement diverse, pas autant sans doute que la théologie en général, quand même, il y a une spécification féministe, et nous aurons à signaler des théologies doucement ou même plus fortement antiféministes, comme variété de théologies, donc en dehors de la gamme des théologies féministes que je vais principalement présenter. Cela dit, il ne faudrait pas mettre toutes les théologies féministes purement et simplement dans le même sac. Il y a des différences très considérables entre elles. Et dès maintenant, je peux dire que la plus importante de ces différences, évidemment, est celle de l'adhésion ou du rejet du christianisme. L'adhésion au christianisme ou de son rejet. Car j'inclus dans la diversité des théologies féministes, des théologies qui se veulent non chrétiennes, voire antichrétiennes. Pourquoi alors ne pas dire les théologies féministes et garder quand même dans mon titre un singulier, tout en parlant de diversité? On doit reconnaître, me semble-t-il, certains traits communs aux variétés, même les plus différentes, de théologie féministe, une certaine solidarité dans le combat qui se livre dans l'arène des théologiens aujourd'hui. C'est un point que, dans un autre article de ce même numéro de Temelios, Robert Lethem met bien en valeur, je crois qu'il a raison. Il souligne qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait rupture entière, même entre les théologies féministes antichrétiennes et celles qui se veulent toujours chrétiennes. Subsistent des liens, certains sentiments de communauté dans le combat, et ça se manifeste par exemple dans l'inclusion de contributions de ces diverses tendances dans les mêmes livres, même livres collectifs, où vous avez donc des théologiennes proches des positions évangéliques et des théologiennes au contraire néo-païennes tout à fait déclarées qui contribuent ensemble, ce qui marque bien que les ponts ne sont pas coupés, qu'il y a quelque chose qui demeure commun, certaines reconnaissances. C'est un point que je ne commande pas davantage, mais qui, je crois, correspond à ce qu'on peut décrire. D'où l'usage d'un singulier, qui est encore pertinent. Dans quel ordre déployer le spectre de ces théologies féministes diverses et pourtant qui ont quelques traits qui demeurent communs? J'ai hésité, puis je me suis dit, je commence par la forme qui est la plus proche de nous, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elle risque de passer inaperçue, au moins dans le grand débat. J'ai fait la louange du livre de Gibellini et tout spécialement de son chapitre consacré à la théologie féministe. Mais j'ai dit qu'il ne dit rien des évangéliques dans tout l'ouvrage, hein, qui a près de 800 pages. Et je note qu'il ne dit rien de la théologie féministe évangélique. Dans son chapitre sur le féminisme, pas un mot. Donc elle risque de compter pour rien dans les présentations courantes. Il vaut la peine de réagir en disant « elle existe ». Il y a des auteurs de qualité. Hélène Storke, dont j'ai parlé ce matin, étant au tout premier rang, il y a des auteurs de qualité qui appartiennent à cette tendance. Deuxième raison, si je commençais par les formes qui sont les plus éloignées de nous, peut-être donnerais-je l'impression, en tout cas je les crains, de placer la théologie féministe sous une lumière si noire, m'accorder l'expression paradoxale, que par la suite, il paraîtrait impossible de sauver quelques valeurs pour l'adjectif évangélique lorsqu'on la colle à la théologie féministe. J'aurais l'air déjà de trancher dans le sens de la condamnation en parlant des formes qui sont, je dirais, évidemment opposées à la foi évangélique réunie ici. Nous sommes tous d'accord de confesser. Donc je crois qu'il est plus sage de commencer par les théologies qui adoptent consciemment, délibérément, le même fondement que nous, le fondement de l'autorité de toutes les Écritures, le fondement du credo, du christianisme dans sa tradition marquée par la Réforme, qui est évangélique. Il existe donc un féminisme évangélique depuis le 19e siècle déjà. J'ai mis en bibliographie un ouvrage que j'ai aussi là de la bibliothèque de ma grand-mère. Hein, je ne fais pas de mystère, de Catherine Bushnell, des missionnaires en Chine, médecin qui fait une très grande étude, c'est un ouvrage volumineux, sous le titre God's Word to Women, pour interpréter dans un sens féministe une multitude de passages bibliques. C'est un ouvrage donc, qui date de la première partie de notre siècle. Il y avait des féministes parmi les évangéliques d'autrefois, et qui ont élaboré un plaidoyer dans le sens de leur affirmation que les restrictions imposées aux femmes par la tradition de l'Église n'étaient pas bibliquement justifiées. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme Hélène Stonquet peut être considérée comme représentante majeure d'un féminisme évangélique, là très nettement évangélique. Mais féminisme avec une certaine vigueur, il ne faudrait pas se faire d'illusions sur ce point. Hélène Stonquet, il y aurait d'autres auteurs aussi. Je pense qu'aux États-Unis, Virginia Mollenkopf, dont je n'ai rien lu. Si, je crois que j'ai dû lire quand même une fois ou l'autre une recension écrite par elle, mais dans la Christian Scholars Review. Mais je ne la connais pas bien, mais elle est citée, c'est souvent, comme représentante d'un courant féministe évangélique. Je cite en bibliographie le livre d'Anne Brown. Je ne classerai peut-être pas Anne Brown elle-même parmi les féministes, mais elle n'en est pas très loin. Elle est dans le sens de la modération, extrême modération. Anne Brown a fait un temps d'étude ici, c'est l'épouse du secrétaire général de l'Union internationale des GBU, IFES. Et elle a écrit un livre, elle a aussi écrit plus brièvement l'article féminisme du tout récent dictionnaire d'éthique et de théologie pastorale, publié par les presses GBU britanniques. Et donc elle connaît bien la question, elle a aussi écrit un ouvrage, mais extrêmement modéré, rigoureux, dans le sens d'un féminisme très très modéré. J'ai mis forme plus poussée ensuite. En fait, je connais pour ces formes plus poussées aux auteurs masculins.
Il y a des auteurs masculins féministes, comme il y a aussi des auteurs féminins qui ne le sont pas. C'est chaque fois une minorité, je pense qu'on peut, le dire, mais quand même, souvent une minorité significative. Alors, deux auteurs masculins vont plus loin qu'Hélène Stanké, c'est assez clair, et l'un dépasse même la limite que je tracerai pour définir ma position dite évangélique. Et je ne suis pas seul à estimer qu'il a franchi la limite, je vais vous expliquer la chose dans un instant. Mais il y a Gilbert Villézidian, donc bon, il est cité dans mon schéma et dans la bibliographie. Son livre a été traduit en français, publié par les éditions Grâce et Vérité. Gilbert Villézidian, qui a donné il y a quelques années deux semaines de cours au début de notre année scolaire ici, est d'origine franco-arménienne. C'est d'origine française, mais il a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, où il enseigne actuellement. Et le titre de son ouvrage en anglais, moi je ne l'ai pas lu dans la traduction française, mais je l'ai en anglais, est plus significatif que le titre français, Homme-femme vers une autre relation, c'est Beyond Sex Roles. Il s'agit de dépasser l'idée de rôle défini par l'appartenance à tel ou tel sexe. Beyond Sex Roles. Et son ouvrage refuse entièrement, il n'y a aucune nuance à ce propos, refuse entièrement l'idée qu'il y aurait des rôles préétablis pour l'homme ou pour la femme et qui restreindraient ainsi l'entière liberté de la femme d'accomplir n'importe quelle tâche ou mission. Il pense que l'enseignement de toute la Bible est celui de l'égalité entière entre l'homme et la femme, qu'il n'y a aucune structure hiérarchique, aucun différentiel quant à l'homme et à la femme dans toute l'écriture. Et même si sa position personnelle sur l'inhérence biblique n'est peut-être pas parfaitement assurée, cela n'apparaît pas dans son livre. Dans son livre, il se présente comme entièrement respectueux de l'autorité biblique tout au long. Jamais il ne met en doute l'autorité d'un passage considéré comme exprimant l'enseignement d'un auteur inspiré. Alors il se livre à une interprétation de tous les passages qu'on peut considérer comme intéressants dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et chaque fois avec beaucoup d'habileté, beaucoup de charme. Je ne pense pas qu'une femme puisse lire ce livre, même en désaccord, sans éprouver un certain plaisir de son style très, très caressant, très, à coup sûr, très charmeur. Donc, il prend tous les passages, et chaque fois, il essaie de montrer qu'on peut comprendre, on doit comprendre, que c'est seulement l'égalité que Dieu a eu en vue entre l'homme et la femme, que s'il y a autre chose, c'est un effet du péché, qu'il faut combattre, donc que tout au long, depuis les premières pages de la Genèse jusqu'à la fin, il met l'accent, et là à mon avis, tout à fait juste titre, sur les rôles très positifs et importants que beaucoup de femmes reçoivent dans l'Ancien Testament. Le grand passage sur la femme de grande force, qui à la fin du livre des Proverbes, par exemple, un passage qu'il met en valeur, mais ce n'est pas le seul. Cette femme qui est un vrai chef d'entreprise, qui mène sa barque, qui a vraiment une personnalité rayonnante. Il y a toute l'institution des femmes sages, qu'il ne faut pas confondre avec les sages-femmes, dans l'Ancien Testament, qui joue un peu le rôle des avocats. Vraiment, il y a un poids dans la communauté. Et puis, il met en valeur l'attitude de Jésus. C'est un trait qui est fréquent chez les auteurs féministes, en particulier évangéliques. Jésus, présenté en contraste, peut-être durci, exagéré, avec le judaïsme de son temps, alors que le judaïsme est sexiste, opprime la femme, Jésus est juste à l'opposé. Celui qui les honore, celui qui les promeut, celui qui est fidèle, les évangélistes des apôtres, au moment de la résurrection, etc. Donc, vous avez mis en valeur. Et même les passages de l'apôtre Paul, comme 1 Corinthiens 11 ou 1 Timothée 2, qui sont interprétés si souvent dans un sens assez antiféministe, et que beaucoup de féministes ressentent comme extrêmement désagréables, ils les interprètent d'une façon qui conviennent à sa thèse. Il y a un seul passage pour lequel alors il adopte une lecture juste opposée. C'est vraiment alors un machisme dur qu'il lit dans le verset, c'est le passage de Corinthiens 14, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais alors, là, il prétend que Paul cite ses adversaires, que c'est simplement une citation à laquelle ensuite il répond, donc il ne s'agit pas du tout de son opinion, mais du contraire de son opinion. Ainsi, il peut l'interpréter, ce passage-là, de la manière la plus dure, mais il croit pouvoir plaider que ce n'est pas l'enseignement de l'apôtre, mais une citation qu'il fait. Ainsi, donc, Villésithion représente une tendance extrêmement poussée. Je ne pense pas qu'Hélène Stanquet récuserait toute idée de différenciation de rôle, par exemple. Elle refuse qu'on emprisonne la femme dans un petit rôle marginal, étouffé, etc. Étouffé, étouffant. Mais Villésithion, lui, va plus loin. Et croit pouvoir attribuer à la Bible cette position qu'il a lui-même, tout au long. L'autre auteur, dont j'ai dit que lui dépasse la limite, c'est Jewett, Paul King Jewett, que j'ai connu aussi autrefois quand il était en congé sabbatique à Paris. Il est mort en 91, Jewett, génération antérieure, dans son livre « Man as Male and Female ». Alors lui, il dépasse la limite, parce que, à la manière des libéraux, dont nous allons devoir parler, il rejette certains passages du Nouveau Testament. Quant à leur autorité, il ne dit pas qu'ils ne sont pas canoniques, mais il fait, dans les écrits de Paul, une opposition formelle entre la percée révolutionnaire et qui est la parole de Dieu, celle de Galates 3, 28. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà la grande charte, Magna Carta, la grande charte de la liberté chrétienne. C'est la nouveauté rédemptrice, celle qui libère, qui est proclamée. Et puis, les passages où Paul est retombé dans l'ornière rabbinique de sa formation, où Paul, donc, n'est plus à la hauteur de l'inspiration plénière. Ça, c'est le Paul de Corinthiens 11, 14 et Timothée 2. Jewett était professeur dans une faculté évangélique large, celle de Fuller aux États-Unis, une faculté qui officiellement a dit qu'elle ne voulait pas se lier à l'inhérence de la Bible, l'absence de toute erreur dans la Bible, bien qu'elle soit évangélique grosso modo et qu'elle le soit restée. Elle a supprimé la clause qui affirmait l'absence de toute erreur de sa confession de foi initiale. Donc c'est une faculté large. Mais les collègues de Jewett, quand ils ont vu ce qu'il avait publié dans son livre, cette manière de traiter des passages quand même très nets dans les épîtres, on dit là quand même non, trop c'est trop. Il y a eu une commission d'enquête dans la faculté de Fuller et elle a conclu par une censure, une réprimande à l'égard de ce professeur, mais qu'il était si près de la retraite, on lui a laissé quand même terminer son temps jusqu'au moment de la retraite. Jewett était un bon théologien sur certains sujets, il a écrit peut-être les meilleures choses sur le sujet du baptême des enfants, à mon avis c'est son livre qui est le meilleur, de tous ceux qui sont disponibles, voilà mon avis personnel. Donc j'ai de l'estime pour King Jewett, mais en l'occurrence donc il représente un féminisme encore lié à la mouvance évangélique, mais qui a franchi une ligne, très dangereusement me semble-t-il, en rejetant l'autorité de quelques passages du Nouveau Testament. Au nom, bien sûr, du message central du Nouveau Testament. Je peux essayer de développer un tout petit peu quelles sont les grandes lignes de l'interprétation féministe évangélique, modérée ou poussée, ou plus poussée, de l'ensemble de la Bible, vous en donner une petite idée. Et puis ensuite, je parlerai des critiques suscitées.
Je pense qu'il y a trois grands traits qui caractérisent ce traitement féministe évangélique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le premier trait consiste à mettre en valeur tout ce qui est promotion de la femme dans les textes. Les auteurs féministes lisent avec l'œil pour tous les détails, tous les éléments qui vont démentir l'idée toute faite, qui est dans beaucoup d'esprits encore, que la tradition a véhiculée, que dans le dessein de Dieu, la place de la femme est une place inférieure, elle est là pour se taire, et pour rester à la maison, sous l'autorité de son mari. Vous avez une sorte de ratissage et de mise en relief des données bibliques qui vont en sens contraire et qui sont nombreuses. Ça, c'est un travail intéressant qui est fait. J'en ai dit un mot à propos de Bilésicain pour l'Ancien Testament. Pour ce qui concerne l'attitude de Jésus, on peut trouver de très belles pages, je dirais émouvantes, chez Ellen Stanquet à propos de l'attitude de Jésus. C'est dit avec force. Avec, à l'occasion, un petit faux pas, je le signale. Elle, dans son résumé où elle montre l'attitude ouverte, généreuse de Jésus à l'égard des femmes, il dit, et il a accueilli et félicité en quelque sorte les mères qui lui amenaient leurs petits-enfants pour être bénis. Il dit, tiens, j'étais vérifié. Ah non, il n'y a pas question de mère. Hein. Il simplement dit, on lui apporta des petits-enfants pour qu'il les bénisse, etc. Vous voyez, alors là, elle a projeté, c'est très amusant de constater ça, c'est pour ça que je vous le signale en illustration, elle a projeté l'idée que ce devait être les mères qui amenaient les enfants. Mais le texte ne dit rien. Le texte ne précise pas le sexe des parents, ou même peut-être pas parents, qui ont conduit les petits-enfants auprès de Jésus, et que les disciples voulaient empêcher. Mais, ce petit détail mis à part, Ellen Stanquet a fait un beau travail, très beau travail, en dépeignant Jésus dans son attitude à l'égard des femmes, un trait que beaucoup d'auteurs féministes et féminines en général en même temps mettent en valeur, c'est qu'il n'y a pas cette condescendance, cette façon paternaliste, patronizing dit-on en anglais, de traiter les femmes, que les femmes ont souvent ressenti comme désagréable, même chez les hommes qui semblaient vouloir prendre leur cause à cœur. Rien de ça chez Jésus. C'est mis en valeur de manière intéressante. C'est très sélectif aussi, parce que généralement on ne trouve pas du tout de commentaires sur le fait que Jésus n'a pas choisi de femme pour être apôtre, par exemple. Mais tout ce qui est positif est mis en relief. Aussi dans l'équipe de Paul, le fait que Paul soit entouré de collaboratrices, et pas seulement de collaborateurs, qu'il les honore grandement, qu'il les appelle collaborateurs dans l'Évangile, qu'il fasse l'éloge de Phébé au début de Romains 16. Dans tout Romains 16, d'ailleurs, vous avez un nombre assez considérable de noms féminins. Et puis, il y a Phébé, qui est appelé diacre de l'église de Sancré. Et aujourd'hui, on dit qu'il vaut mieux ne pas traduire diaconesse, parce que ça suscite une toute autre image dans l'esprit que médiacre. De toute façon, c'est un mot unique en grec, diakonos. Et elle n'est pas seulement appelée cela, elle est aussi appelée prostatis, qui est un titre d'honneur et d'autorité. Si c'était un homme, on traduirait peut-être bien président. C'est une traduction qui serait possible. Bon, il semble plus vraisemblable dans ce contexte qu'il s'agit plutôt de patronner dans la vie sociale et auprès des tribunaux quelqu'un. C'est une personne sans doute qui a du poids socialement et qui se porte garante, qui patronne. Elle l'a fait pour Paul. Phébé reçoit beaucoup d'honneur. Priscille, nous reverrons un peu ces données. Fatalement, on revient un peu toujours au même texte et aux mêmes données quand on discute sur le sujet que nous avons abordé. Mais Priscille, dans
donc la femme d'Aquila, qui est nommée avant son mari, contrairement à l'usage du temps, plusieurs fois, qui semble avoir été une personnalité de tout premier plan dans l'Église primitive, et que Paul honore aussi grandement. Donc, première grande stratégie, avec parfois un petit débordement, mise en valeur des données qui montrent l'importance des femmes dans le mouvement tel que Dieu le conduit, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Deuxième grande stratégie, une interprétation qui joue de l'élasticité des textes, tant qu'il est possible, pour réduire ou éliminer la composante patriarcale. Et ces études féministes en général, y compris donc celles de Billy Zickian ou de Jewett, ne trouvent dans le récit de la Genèse, par exemple, aucun élément qui différencie quant à l'autorité de l'homme et la femme, quant au rôle qui serait attribué, avant la chute. C'est seulement à partir de la parole de condamnation que Dieu prononce en Genèse 3, quand il dit que le mari dominera sur la femme, lui dominera sur toi, ton élan te portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi, que l'idée donc d'un gouvernement, d'une différence d'autorité apparaît. Mais c'est la pure et simple égalité auparavant. Je ne suis pas prêt à suivre cette interprétation, mais pour l'instant je décris la tendance à interpréter les textes autant qu'il paraît possible, d'une façon qui élimine l'idée d'une différence d'autorité et d'une assignation de rôle hiérarchiquement différencié. Cette tendance s'applique au début de la Genèse. Et comme ça aussi, tout le long du Nouveau Testament, un argument qui est employé très très souvent, lui aussi, sans doute à sa critique une autre fois, concerne le mot de « tête » qui est employé dans les épîtres de Paul, tout spécialement. Vous savez que Paul dit « l'homme est la tête », littéralement. Nous avons traduit « chef » dans nos versions classiques en français. « L'homme est la tête de la femme », comme le Christ est la tête de l'Église. Une interprétation qui est très populaire parmi les ministres, qui a été lancée il y a quelques 25 ans, 25-30 ans, par un certain Bidère, c'est que le mot képhalé, tête, dans le grec du Nouveau Testament, ne signifie pas du tout, comme on l'a cru traditionnellement, l'autorité, le rôle de gouvernement, mais, nous dit-on, la situation de source. L'homme est la tête de la femme, dans le sens que l'homme est la source de la femme, dans le récit de la Genèse, et de même pour l'Église et Jésus-Christ. Donc vous avez affirmation que le mot tête ne signifie pas chef. Je crois particulièrement étudier ce point, donc je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, et j'estime avoir des munitions sur la question. Je signale, parce que c'est périphérique par rapport au grand débat, et que ça me semble en même temps illustrer un peu sa manière, que Gilbert Billy Zickian tire profit de son prestige de français, ou d'ex-français, pour son public américain, en disant qu'en français, le mot tête n'évoque pas l'autorité du tout. Il dit ça aux Américains, il le déclare péremptoirement. Alors je lui ai écrit, quand je lui ai écrit après avoir reçu ces documents, parce que nous avons correspondu, je lui ai cité Le Grand Larousse, le Littré, en lui montrant qu'il y a des citations, Voltaire et autres, où le mot tête est employé dans le sens de l'autorité, en français, comme en latin. Il affirmait, là, dans la version américaine de son livre, purement et simplement le contraire. Attendez, je suis pas sûr que ce soit son livre, c'est peut-être un paper, là, qui m'avait envoyé une dissertation, un travail écrit. Donc, deuxième grande façon de traiter l'autorité biblique, dans le débat, pour aller dans un sens féministe, contester l'interprétation traditionnelle de beaucoup de passages, en disant, en fait, il ne signifie pas ce qu'on leur a fait dire classiquement. Alors, dans le cas d'un Corinthiens 14, Bélésitien a trouvé que c'était quand même trop dur pour ce passage-là, mais il a trouvé un autre moyen, celui de l'attribuer aux adversaires de l'apôtre, en disant que c'est une citation que Paul fait de leur dire. Ce qui est une chose envisageable. Là encore, je n'ai pas été convaincu par ces arguments, mais il ne faudrait pas dire que c'est juste parce que ça le gênait. Il est vrai que, dans l'Épître aux Corinthiens en particulier, la première Épître aux Corinthiens, il y a certains versets dont on peut se demander si c'est l'expression même de la pensée de Paul, ou s'il reprend ce que ses adversaires disaient, ceux qui troublaient passablement l'église de Corinthe, dont on lui rapportait les dires, pour ensuite les réfuter. Ce n'est pas quelque chose qui, méthodologiquement, soit condamnable a priori, de dire c'est une citation d'un autre avis, sur quoi il faut revenir. Il y a au moins l'auteur d'un gros commentaire assez récent, un évangélique, un pentecôtiste évangélique, de la première aux Corinthiens, Gordon Fee, qui a cette option, et pas spécialement par féminisme, je crois, en ce qui concerne le passage d'un Corinthiens 14. Donc, vous signalez qu'il peut y avoir débat, pas une chose impensable. Et puis, troisième façon de traiter le problème, faire intervenir le conditionnement culturel. Là, on passe de l'exégèse à l'herméneutique, si on distingue entre les deux, comme on le fait assez souvent. On peut être féministe en invoquant la nécessité d'une transposition lorsqu'on interprète pour aujourd'hui les textes d'autrefois. L'exégèse, c'est la démarche qui consiste à chercher ce que le texte signifie dans son contexte, généralement en mettant l'accent sur le détail de l'expression, sur un passage particulier que l'on scrute de la manière la plus minutieuse. L'herméneutique, c'est la discipline qui s'interroge sur le sens et la portée, non seulement ce que le texte signifiait, mais sur ce qu'il signifie aujourd'hui. Et l'herméneutique fait intervenir la notion de contexte. Il n'y a pratiquement pas d'énoncé, de parole lancée ou écrite qui soit dite comme ça en l'air. C'est toujours dans une situation donnée qu'on écrit, en réponse à des attentes, en riposte à des choses qui circulent, en vue de ce que l'on connaît et dont on sait que les destinataires le connaissent aussi. Une parole est toujours située contextuellement. Il y a une coloration culturelle qui est attachée aux langues même que l'on utilise. Cette allusion à des relations telles qu'on a l'habitude de les éprouver, à des normes qui sont comme implicites. Quand on traite une question, on se réfère à des données d'une époque, d'un temps, d'une culture. Et notre siècle a pris conscience de l'extrême diversité des situations historico-culturelles, des contextes, comme on dit. Donc, contexte non pas au sens simplement des éléments décrits qui entourent un passage dans un même livre, mais au sens de site dans la vie. Notre époque réagit contre ce qui a été dénoncé comme l'ethnocentrisme, l'impérialisme culturel d'époque antérieure, où les Occidentaux, avec toute la puissance que leur donnait leur technique, étaient persuadés qu'il y avait la civilisation, leur culture, et que tout le reste n'était que barbarie, et que leur civilisation avait valeur universelle, donc il fallait interpréter dans son cadre. Le XXe siècle a réagi en soulignant que tout discours est conditionné par le milieu socioculturel. Et du coup, alors, parce qu'il s'agit des textes bibliques qui ont été émis dans une situation historico-culturelle qui n'est plus la nôtre, la question de la transposition se pose. Devons-nous interpréter les textes littéralement? Mais en fait, nous les trahirons, parce que ce dont il est question littéralement n'a plus du tout le même sens aujourd'hui, dans notre contexte historico-culturel. Exemple typique sur lequel s'accordent quand même la plupart des évangéliques, et peut-être pourrons-nous nous accorder tous sur ce sujet, la question du voile traité en 1 Corinthiens 11 n'est pas uniquement du voile que Paul parle, mais aussi de ce qui sous-tend ces directives à propos du voile. Mais en ce qui concerne le voile, purement et simplement, je crois que la plupart des évangéliques seront d'accord pour dire le sens du port du voile n'est pas seulement une petite coiffure, pas seulement un petit bibi, hein, mais du voile. La question du port du voile à Corinthe au 1er siècle ne peut pas être traitée comme si aujourd'hui le sens d'un tel attribut vestimentaire, une telle coutume était le même. C'est manqué complètement. Il faut savoir ce que à Corinthe signifiait de porter le voile ou de le refuser, pour ensuite voir ce que dans notre situation différente, le même principe donnerait. La relation féministe évangélique des Écritures, dire bien sûr il y a des éléments de mentalité patriarcale dans l'Écriture. C'est évident, ça apparaît dans la législation de la loi de Moïse. Les tarifs pour les vœux, par exemple, entre la femme et le mari, etc. Et ça se poursuit même dans les Épîtres ou l'Apocalypse, mais cela, c'est le conditionnement culturel. La parole biblique n'est pas une parole détachée, intemporelle, elle est inscrite dans une histoire tout à fait particulière, et donc nous ne devons pas tout gober comme ça et tout transposer exactement. Il faut tenir compte de ce conditionnement. Donc c'est en faisant jouer cette considération que les éléments qui paraissent peu compatibles avec le féminisme dans les Écritures sont neutralisés en quelque sorte dans le traitement féministe évangélique. Voilà, très, très grosso modo, bien sûr, selon les grandes lignes, ce que je peux dire des traits les plus marquants de la théologie féministe la plus proche de nous. Il y a débat, peu en France, un petit peu. Et si le sujet est à l'ordre du jour de l'université d'été, il y a déjà un petit peu débat et qu'il va y avoir encore débat. Sans doute ces prochaines années dans le cercle évangélique francophone. Mais dans le monde anglo-saxon et dans le monde germanique aussi, le débat est beaucoup plus animé et dure depuis bien plus longtemps déjà. Et il y a un fort parti, si l'on peut dire, qui se refuse au féminisme, qui le critique, là encore, de manière plus ou moins douce ou plus ou moins poussée ou vigoureuse. Mais il est intéressant donc pour vous de savoir qu'il existe une aile. Alors il y a des formes massives et dures, et bon, je suis prêt à dire bêtes, dans une telle riposte, très, très crispée et d'abord traditionnaliste, me semble-t-il, Hélène Storquet, qui me paraît quand même caricaturer les choses, un petit chapitre où elle présente ses positions anti, avec un florilège de citations effectivement peu reluisantes, mais je pense quand même que globalement elle caricature, hein, ce avec qui elle n'est pas d'accord. Je me rappelle que Gilbert Villédiquian racontait, ça paraît tellement énorme, j'ai encore peine à croire qu'il y a, il avait eu un débat, je crois, à la télévision, avec un tenant de la position évangélique non féministe ou anti-féministe, et qu'il l'avait acculé en quelque sorte à une réponse face à la situation suivante. Votre femme et vos enfants ont envie de partir à la mer, mais vous, vous préférez la montagne. Alors, qui choisit et que choisissez-vous? Et bien l'autre aurait répondu, paraît-il, c'est évident, c'est moi le chef, et donc je choisis la montagne. Je trouve que c'est énorme. Oui, carrément bête. Hein. Je dirais que dans la mesure même où on accepterait la perspective antiféministe avec un rôle de chef attribué à l'homme à prendre la décision en dernière instance, et c'est ainsi que ça va fonctionner, je dirais, du fait même que l'homme est le chef, il ne peut pas faire passer sa préférence personnelle en premier lieu. Il est en conscience obligé de choisir en sens contraire. C'est seulement s'il est persuadé que c'est pour le bien de sa femme et de ses enfants qu'il peut en conscience choisir autrement qu'il ne souhaite. Donc ça paraît énorme, mais apparemment ça existe. Il y a une très grande nervosité et crispation. Mais il y a d'autres auteurs qui débattent de manière, je pense, beaucoup plus adéquate, plus souple, avec des arguments qui ne s'éliminent pas d'un revers de main, des études assez fouillées. Et alors je vous signale en bibliographie un livre collectif que je n'ai pas lu, mais que j'ai regardé, quoi. Page 39, donc John Piper et Wayne Grudem sont les éditeurs au sens anglais d'un ouvrage collectif de près de 600 pages qui riposte au féminisme évangélique. Hein, évangélique, eh bien, c'est le débat interne parmi les évangéliques.
Une personne, même deux, qui sont des femmes, pourtant, et on dit que ce n'est pas le rôle d'une femme de
l'être pasteur. Oui, vous avez. Alors, ce que vous me dites là, effectivement, permet de signaler qu'il y a parmi ces auteurs non féministes ou anti-féministes, je pense qu'on peut carrément employer l'expression, hein, ils refusent la perspective féministe, il y a des femmes. Il y a des femmes qui interviennent. Et les deux que je citerai sont Susan Faux, qui a aussi écrit un livre, là j'ai la référence, qui est sous-titré, je ne voulais pas donner la bibliographie, mais Women and the Word of God, a Response to Biblical Feminism, donc les femmes et la parole de Dieu, une réponse, une réplique au féminisme biblique. Susan Faux, dont j'ai discuté un article dans mon livre Révélation des origines sur Genèse 3, qui est une théologienne tout à fait compétente, rejette le féminisme, enfin une critique systématique. Et vous avez Elizabeth Elliot, qui est un auteur très connu, une femme remarquable. C'est la veuve, elle s'est remariée ensuite, elle s'est remariée deux fois, parce que deux fois veuve, mais c'est la veuve d'un des missionnaires tombé sous les coups des Oka. Vous vous rappelez, elle a écrit un livre très émouvant, un très très beau livre sur cette tragédie, sur ce témoignage où le sang de ces martyrs a été semence d'église d'ailleurs, puisque maintenant il y a une église parmi les Indiens Oka. Et donc c'est la veuve de Jim Elliot, donc elle a gardé le nom de ce premier mari. Son livre sur l'histoire en cause, vraiment très beau livre du point de vue dévotionnel, il vous apporte quelque chose, s'intitule Through Gates of Splendor. Par les portes de la splendeur, les portes qui sont les portes du ciel, que son mari et ses compagnons ont franchi alors que les massacraient ces Indiens qui n'avaient pas encore été touchés par l'Évangile. Alors Elizabeth Elliot, qui est issue d'une famille missionnaire en Belgique, la famille Howard, une des familles fondatrices de la mission évangélique belge. C'est une famille avec beaucoup de talent. Elle a un frère, aussi un auteur très très connu, Thomas Howard, etc. Et elle a donc plusieurs fois, y compris dans ce livre collectif, énoncé son opposition aux thèses du féminisme. Donc vous avez une réplique organisée. Alors je peux peut-être encore citer, il y a beaucoup d'auteurs, mais citer ce Grudem, dont le nom est donné comme l'un des directeurs de cet ouvrage collectif. C'est un encore assez jeune théologien que j'ai connu alors qu'il était tout jeune, qui faisait son doctorat à Cambridge et il enseigne au séminaire de Trinity. C'est lui qui tout spécialement s'est attaqué à l'hypothèse selon laquelle la tête signifierait la source. Il a fait une étude de ratissage de plus de 2000 exemples de tous les textes du grec classique que nous possédons pour montrer que ça ne peut pas être le cas. Il n'a pas été le seul à faire cette étude. Plusieurs autres études tout à fait indépendantes. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais Grudem s'est particulièrement fait connaître comme le champion d'une réfutation de la thèse de Bidet sur tête-source. Et sur les autres points, donc, il récuse l'interprétation passage après passage que les féministes proposent, autant que ça ne peut pas tenir. Sur le début de la Genèse, par exemple, ils observent que ce début de la Genèse est interprété sans du tout référence à l'interprétation que Paul nous en propose. La stratégie féministe est très souvent, nous lisons la Genèse, nous ne trouvons rien qui implique une autorité supérieure de l'homme dans la création de Dieu, dans l'ordre créationnel. Alors ça c'est admis, etc. Et puis, beaucoup plus tard, alors on en vient au texte de Paul, et l'argument c'est, puisque nous avons trouvé dans la Genèse qu'il n'y a pas de différence d'autorité, donc Paul ne peut pas vouloir dire ça, donc il faut comprendre autrement. Alors que la méthode que, en tout cas, les critiques évangéliques lancent, c'est que pour interpréter un texte de l'Ancien Testament, nous devons faire usage de tous les autres textes bibliques qui y font référence, qui sont susceptibles de l'éclairer. Donc, il faut tenir compte des textes de Paul au moment où on étudie le sens de la Genèse. Considération de méthode. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont dites en réputation, mises en valeur, des faits qui vont à l'encontre du discours féministe lorsqu'il met en relief les éléments de promotion de la femme. Alors qu'il y a des prêtresses qui jouent un rôle important dans toutes les religions alentour. Dieu a exclu les prêtresses pour la religion d'Israël, alors qu'il y avait un rôle important joué par les femmes dans les mouvements religieux de la fin du 1er siècle en Asie mineure. La première à Timothée, qui correspond à cette situation, énonce ce que nous lisons, etc. Vous avez ce genre de réplique qui est donnée, je n'essaie pas de peser les arguments pour et contre maintenant, mais je vous donne une petite idée du débat qui a cours. Voilà en ce qui concerne la première grande catégorie, en un sens celle qui nous intéresse le plus, puisqu'il s'agit de frères et sœurs qui sont de la même foi, plus que dans le détail que nous. Deuxième catégorie, la théologie féministe libérale. Là, il s'agit de théologiennes qui affirment toujours leur attachement à Jésus-Christ, au christianisme si on veut, qui n'ont pas coupé le lien avec la grande tradition de l'Église, mais qui, comme le fait le libéralisme en général, estime devoir soumettre cette tradition et la Bible elle-même à une critique sérieuse. On peut définir de manière très très rapide, bien sûr, le libéralisme comme une position intermédiaire. Le chrétien libéral, du côté catholique on dira plutôt moderniste, est sincèrement attaché au message. Je dirais qu'à mon avis, dans certains cas, il a fait authentiquement l'expérience de la nouvelle naissance, il est vraiment attaché au Seigneur Jésus. Dans d'autres cas, c'est un attachement au milieu qu'il l'a vu naître, à une tradition familiale communautaire, et souvent il est difficile de démêler, mais il y a un attachement sincère. Mais en même temps, il y a la conviction comme invincible, c'est une sorte d'évidence qui le subjugue, qu'on ne peut pas remettre en cause un certain nombre de choses que la modernité nous a apprises. Qu'il y a des résultats scientifiques indubitables qui nous obligeraient à la malhonnêteté intellectuelle si nous disions toujours que la Bible avait raison, non, on ne peut pas. Donc, il y a cette dualité, et la théologie libérale, dans des formes extrêmement diverses, correspond à une tentative pour trouver un joint, une position intermédiaire. On va retenir de la Bible l'essentiel, ce qui mérite qu'on continue d'y adhérer, en s'accordant avec les convictions de la modernité ou de la postmodernité dans ce qu'elles paraissent avoir de certains d'acquis. C'est comme ça que fonctionne en général le libéralisme. Et alors, quant au féminisme, il fonctionne aussi de cette façon. Le féminisme de type libéral est illustré par diverses théologiennes. Il y a certainement aussi des théologiennes de sexe masculin, mais là je connais essentiellement des noms de théologiennes. La
La plus fameuse, c'est sans doute Elisabeth Schussler Fiorenza, dont le livre cité en bibliographie, c'est peut-être le classique, en mémoire d'elle. C'est devenu très, très gênant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment interpréter. Maintenant, il y a souvent donc deux noms qui sont donnés. C'est tout spécialement ce que font les féministes, Rosemary Radford Rutter. Alors, quel est le nom de jeune fille, comme on dit? Quel est le nom d'épouse? J'ai l'impression que le plus souvent, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, c'est le nom d'épouse qui est mis d'abord, et le nom de jeune fille mis ensuite. Comme aussi, par exemple, dans le nom pour ma grand-mère, Madeleine Blocher-Sayas, donc Sayas, c'est son nom de jeune fille. Mais c'est contraire à l'usage classique français. L'usage classique français qu'on repère bien avec le peintre, Madame Biget Lebrun. Biget, c'est son nom de jeune fille, Lebrun, c'est le nom d'épouse. Donc l'ordre classique en français, c'est d'abord le nom de jeune fille. Alors aujourd'hui, on s'y perd. Moi, quand je vois ces deux noms accolés, je ne sais pas quel est vraiment l'usage suivi. Alors, Elisabeth Schussler Fiorenza, Rosemary Radford Rutter, beaucoup d'autres, elles sont très nombreuses. Qu'est-ce que j'aurais encore à signaler? Oui, Letty Russell. Donc là, essentiellement des Américaines. Hein, puis alors oui, le couple Elisabeth et Jürgen Moltmann. Là, vous avez donc aussi un théologien, l'un des plus connus du monde présent. Moltmann, bon, c'est le nom du mari, et le nom de Wendel, la femme est associée. Ce couple théologien est très engagé dans un féminisme de type libéral. Il y aurait encore d'autres noms sans doute, mais... Je pense que pour l'instant, en tout cas, ce que je vous propose suffit. L'attitude à l'égard de la Bible. Alors, elle est clairement ce que je vous ai dit. Dans la Bible, on en prend et on en laisse. Il ne s'agit pas du tout, c'est tout à fait exclu. Elisabeth Schussler Fiorenza, dans la première partie de son ouvrage, est très claire à son propos. Il s'agit d'éliminer le présupposé orthodoxe et fondamentaliste. On dit fondamentaliste parce que c'est un terme de dénigrement. Que la Bible serait autorité en tout ce qu'elle nous enseigne, non, non, manifestement. Et il y a dans la Bible beaucoup de passages qui ont servi à l'oppression des femmes et qu'on ne peut pas interpréter autrement. La Bible est marquée par la mentalité patriarcale. Letty Russell, et qui est pourtant pas une des plus extrêmes dans ce groupe libéral, et qui a quand même un souci biblique encore assez marqué, écrit, je cite ici l'article de la femme, mais c'est Letty Russell qui a écrit cela. Il est devenu très clair que les Écritures ont besoin de libération, et non pas seulement des interprétations qu'on en a faites, mais aussi du préjugé patriarcal des textes eux-mêmes. Le plus nous apprenons de l'interprétation féministe, le plus nous nous demandons, avec Catherine Sackenfeld, comment les féministes peuvent telle utiliser la Bible, si elles peuvent l'utiliser du tout. Il est très clair que la Bible n'est pas considérée comme un ouvrage faisant autorité, et même qu'on ne peut pas plaider que son intention principale est libératrice, qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, comme un canon à l'intérieur du canon, une partie qui serait saine et libératrice, que l'on pourrait jouer en quelque sorte contre les autres. C'est une thèse que certains féministes ont essayé quand même de plaider en proposant une dépatriarcalisation de la Bible correspondant à la démythologisation que Bultmann a faite. Cela nous est présenté de façon parallèle dans certains des textes que je vous ai signalés en bibliographie. Schussler Fiorenza dit non, cette façon néo-orthodoxe d'essayer de sauver encore comme pure une partie de la Bible, ça ne marche pas. Toute la Bible qu'il faut, jusqu'au fond, en quelque sorte, jusqu'au trognon, dépatriarcaliser. Et le critère, elle le dit très très clairement, le critère ne peut pas être pris dans la Bible. Quel est le critère? C'est le critère de l'expérience féminine. Là encore, une citation que je fais, mais on trouverait pratiquement la même chose dans le livre de Schuster Fiorenza, mais celle-ci vient de Rosemary Rutter. Tout ce qui nie, diminue ou déforme la pleine humanité des femmes doit être dénoncé comme non rédempteur. Théologiquement parlant, tout ce qui diminue ou nie la pleine humanité des femmes doit être présumé comme ne reflétant pas le divin, ou une relation authentique au divin, ou la nature véritable des choses. Ce principe négatif implique le principe positif que ce qui promeut la pleine humanité des femmes, c'est cela qui est saint, cela qui reflète la vraie relation au divin. Le critère est très, très, très clair. C'est le critère de la libération féminine, comme il est perçu, vécu, une conviction déterminante dans l'expérience de ces femmes. C'est typiquement le principe libéral, mais au-delà même du principe libéral ordinaire, c'est le principe de la théologie de la libération. C'est le deuxième point concernant l'usage de la Bible et foncièrement cette théologie féministe libérale que je peux mettre en relief. Elisabeth Schuster-Fiorenza a bien dit que le féminisme est une variété de la théologie de la libération. La théologie de la libération, un courant qui a pris naissance en Amérique latine à la fin des années 60, donc il est à peu près contemporain, très influencé par le marxisme, mais pas simplement marxiste, ce courant de théologie de la libération interprète l'évangile comme le message qui doit mettre en marche les masses conscientisées pour qu'elles se libèrent d'un système oppressif. Il s'agit de dénoncer une oppression multiforme et englobante, aussi sous la forme d'ailleurs du colonialisme et du néocolonialisme caché. C'est le sens même de l'évangile aujourd'hui, que la lutte libérationniste et la théologie doit être faite à partir de cette expérience de libération. Du point de vue du rapport à l'écriture et au christianisme dans son expression historique générale, la clé peut-être concerne cette thèse sur l'interprétation. Nul ne peut vraiment comprendre le message chrétien authentique s'il n'est engagé dans la lutte pour la libération, s'il se fait guérillero ou soutien des guérilleros. Il n'y a pas de neutralité. L'idée de l'objectivité scientifique est typiquement une idée bourgeoise des nantis de l'Occident qui profitent donc de l'injustice et de l'oppression que leur pays exerce à l'égard du tiers-monde et des pays comme ceux d'Amérique latine. C'est une idée illusoire, un instrument idéologique d'asservissement. C'est à partir de l'expérience, de manière inductive et subjectivement engagée, et cela dans le concret de l'action, que l'interprétation est possible. La théologie de la libération prône une herméneutique de l'engagement, sans quoi le sens est forcément manqué. Il y a une similitude d'ailleurs, je le signale, avec une vieille thèse piétiste, de ce piétisme dont nous sommes les héritiers. Nous disons de même que l'engagement subjectif de la conversion, de la sanctification est nécessaire à la bonne compréhension de la Bible. Que nous avons besoin du Saint-Esprit, qui n'œuvre pas en nous sans que nous nous livrions à lui, et que nous nous engagions concrètement dans le chemin de l'obéissance, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Sinon, on manque le sens. Une vieille controverse entre certains orthodoxes au XVIIe siècle qui disaient on n'a pas besoin d'être converti pour faire de la bonne théologie, et puis les piétistes qui répondaient si. Alors là, vous avez une transposition. Ce qui était attribué à la conversion du cœur du piétiste d'autrefois devient l'engagement du militant dans la cause de libération des opprimés. Et ce schéma herméneutique fondamental se trouve alors appliqué au féminisme de la même façon par ses auteurs féministes. Il n'est pas possible d'atteindre l'interprétation féministe des textes si on en reste à la vieille manière, en fait, androcentrique, concoctée par les hommes pour les hommes, de traiter la Bible sous prétexte d'objectivité, de recul critique, etc. La tradition est dénoncée comme un instrument idéologique d'assujettissement des femmes. Ça, c'est par rapport à l'attitude à l'égard de la Bible, je pense, la deuxième grande note, la Bible est imprégnée de ce patriarcalisme duquel vient tout le mal, et pour l'en dépouiller, il ne suffit pas simplement de dire, il faut s'engager dans le combat féministe. Et c'est à partir de l'expérience féminine, l'expérience partagée dans la sororité, la sisterhood, que ça devient concrètement possible. À l'égard de l'Église, alors c'est la même attitude, mais bien sûr encore plus aiguë, quand même un certain effort pour sauvegarder quelques références à l'Écriture, et en particulier à l'attitude de Jésus, à la personne de Jésus. Mais la Bible est dénoncée avec plus de vigueur comme une structure d'oppression. Et cela, chez les féministes catholiques elles-mêmes, c'est beaucoup plus significatif du côté catholique que du côté protestant, parce que la critique de l'Église, en quelque sorte, c'est traditionnel dans le protestantisme. On pourrait dire que c'est inclus dans le mouvement protestant comme tel, la démarche protestante. Mais, dans une perspective catholique, s'en prendre à l'Église, c'est plus grave que s'en prendre à l'Écriture. Or, les féministes catholiques vont très loin dans ce sens, en particulier donc les féministes d'Amérique du Nord, mais aussi des Pays-Bas ou d'Allemagne, cela arrive aussi, le pape, lorsqu'il a fait des visites dans ces pays, a dû faire face à des objections, disons, des ripostes assez désagréables pour lui. Apparemment, il a surmonté, puisque vous savez qu'il vient d'écrire une épître aux femmes, où il demeure ferme quant à ses propres positions, mais adopte un langage susceptible de les apaiser, de leur plaire, au moins jusqu'à un assez haut degré. Hein, vous savez, ces jours derniers, il vient de publier une épître adressée à toutes les femmes du monde. C'est très typique de la situation où nous sommes, que le pape ait senti le besoin de lancer un tel document. Et sans accorder quoi que ce soit au ministère sacerdotal, ni céder sur l'avortement ou la contraception, il a eu un texte essentiellement positif pour le féminisme. Il a senti le besoin, je pense, de modifier quelque peu son image dans les médias à cet égard. Donc, critique de l'Église. Et puis, troisième point, caractéristique donc de ce courant féministe libéral et qui se veut encore chrétien, critique extrêmement forte de l'image masculine de Dieu qu'a véhiculée la tradition, qu'on a tirée de l'Écriture, que la liturgie inculque. Associée à cette question de l'image de Dieu, une question de moindre ampleur sans doute, mais je signale aussi celle du langage inclusif. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, on ne peut plus dire président, chairman, l'homme de la chair, de la chaise présidentielle, chairman. Maintenant, c'est sexiste, il faut dire chairperson. Ça maintenant, c'est vraiment entré dans le langage. On ne peut pas dire mankind, comme on disait toujours auparavant, il faut dire humankind. Ainsi de suite. Refus d'un langage où le mot homme, man, vaut pour les deux sexes, puisque c'est le mot qui est aussi le terme employé pour la part masculine de l'humanité, alors il faut le bannir lorsqu'il s'agit aussi bien des femmes que des hommes. C'est jugé comme portant dommage, utilisé au détriment des femmes, si on utilise ce langage. Si on dit mes frères, c'est vraiment très très gênant. C'est vrai qu'une fois instruit de cette sensibilité nouvelle, hein, c'est vraiment une chose nouvelle, on chante certains cantiques, vraiment on a envie de rire en même temps. Debout nous sommes frères, puis trois quarts de l'assemblée sont féminines. C'est vrai que ça fait... Maintenant, autrefois ça passait comme ça. Mais surtout, alors dans le monde anglo-saxon, et en français, aussi au Canada français, Alors là, c'est devenu un sujet très délicat. On me racontait qu'un orateur, s'adressant à mon cher frère et sœur, canadien et canadienne, je vous remercie d'être venu, nous allons chanter chants et cantiques, levez-vous de vos bancs et banquettes. Donc il y a cette question du langage inclusif. Nous sommes très peu touchés en France quand même, en France par ce courant. Mais alors la question qui est beaucoup plus sérieuse, je dirais, qui va quand même beaucoup plus loin, concerne le langage masculin pour Dieu dans l'Écriture. L'image paternelle de Dieu, Dieu Père. Le féminisme modéré, alors ça peut aller jusqu'au féminisme évangélique, si ça touche le féminisme évangélique, tente de plaider que dans l'Écriture, il y a également un langage féminin pour Dieu, que Dieu est mère autant que père. Cela, c'est le plaidoyer d'un certain nombre. Il relève les métaphores dans l'Ancien Testament de Dieu comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Le mot d'enfantement qui est employé une ou deux fois pour Dieu, pas seulement engendrement, mais enfantement, donc le terme maternel. Il y a un argument considération qui a moins de force linguistique, à mon avis, la méthode peut être critiquée, mais qui est quand même intéressant. Le mot pour compassion dans l'Ancien Testament, rachamim, est de la même racine que le mot pour le sein maternel, pour lequel, si vous voulez, rachem. Et donc, c'est la féminité de Dieu qui serait évoquée chaque fois que le terme de compassion, on dit bien souvent, est utilisé pour lui. Vous avez donc mis en valeur de la féminité de Dieu dans l'Ancien Testament, dans de nombreuses métaphores. Vous avez la mise en valeur du féminin, de la sagesse et de l'esprit. En hébreu, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas l'heure encore. Si, c'est l'heure. J'ai cru que c'était jusqu'à 16h. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, alors, féminin, donc, pour Chokhma, la sagesse, c'est un proverbe 8, et puis l'esprit qui se dit roi. Ça, c'est une ligne. Et le thème de la Sophia Chokhma est vraiment un thème mis en valeur. Deuxième ligne, alors, dénonciation du langage patriarcal, paternel, masculin pour Dieu, selon la ligne libérale, critique de la Bible. En fonction du tiraillement caractéristique de la théologie libérale, attachement à la tradition chrétienne, mais aussi critique, vous avez les deux possibilités. Mettre en valeur les éléments féminins dans la présentation de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ou bien critique, disant, oui, c'est une vision patriarcale, mais c'est le contexte culturel, c'est de toute façon une déformation contre laquelle il nous faut lutter. Et vous avez, donc même chez les auteurs libéraux, des propositions d'emploi du féminin pour Dieu. Tel théologien dira, j'ai trouvé Dieu en moi et je l'ai aimé férocement, fiercely. Par exemple, c'est ce que dit une théologienne, affirmer le divin, et le divin même biblique, comme féminin en soi. Vous avez eu un grand crucifix avec une Christa, une femme crucifiée. Donc, grand débat sur cette masculinité ou féminité de la présentation de Dieu. Alors, en ce qui concerne la troisième catégorie, comme je me suis laissé piéger là par la limite de temps, eh bien, j'en traiterai en début de séance prochaine, donc demain matin.